Bertrand Puy. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Je rappelle que tu es gérant Action International, gérant Action chez Fidelity International. Merci d'être avec nous ce soir. Et on a parlé beaucoup d'IA hein, toute la journée, depuis plusieurs jours. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce soir, on va vous proposer une autre thématique d'investissement dont on parle peu. Et pourtant, il y a peut-être de belles choses à faire là-dedans. Donc Bertrand, ce soir, on va parler... des valeurs norvégiennes, hein, valeurs norvégiennes qui, selon toi, tu vas tout nous dire dans quelques instants, sont décotées pour beaucoup, mais on va voir ça sous le prisme des matières premières, en particulier du pétrole et du gaz. Et on va voir aussi une autre raison pour laquelle il faut s'intéresser à ce type de valeur, c'est le fait que la couronne norvégienne est largement sous-évaluée par rapport à l'euro. Donc Bertrand, déjà pour commencer, pourquoi la Norvège, en quoi ce pays est intéressant?
Alors, c'est vrai que ça nous rappelle qu'il y a une vie en dehors de l'intelligence artificielle. Hein. Donc, il y a des pays qui ne sont pas forcément, de par leur économie, exposés à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire que leur économie est destinée à sombrer et à disparaître? Certainement pas. Donc, il y a beaucoup d'excès, hein, pour résumer en ce moment. Et c'est vrai qu'on souligne souvent les excès à la hausse. Hein. Donc, il y a Nvidia, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, qui est un peu emblématique de ça. Mais on a, dans l'autre sens, des excès à la baisse. Ces excès à la baisse, on les trouve en particulier sur le marché norvégien. Alors pourquoi? Parce que c'est un marché qui est très sensible aux matières premières. Hein. La Norvège est un des plus gros opérateurs, évidemment, donc de la mer du Nord en termes de pétrole, de gaz. Mais il y a également donc, des leaders dans les métaux, donc dans l'aluminium par exemple, également dans le polysilicon pour fabriquer donc, les panneaux solaires, donc, dans les fertilisants. Donc il y a énormément en fait, d'acteurs, on va dire de la vieille économie, mais qui sont des acteurs qui sont plutôt vertueux parce qu'ils ont en général des bilans sains, ils sont bien gérés. Et puis, ils évoluent dans une économie qui est saine et vertueuse. Alors pourquoi elle est saine et vertueuse? Alors d'abord parce que les prix de l'énergie ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Hein, puis, bon, la Norvège se sert d'abord évidemment dans ses gisements de gaz avec des prix notamment dans le nord de la Norvège qui sont... plusieurs fois inférieure à la moyenne en Europe, hein. Beaucoup d'hydroélectricité aussi, donc un mix aussi qui est très vert. Donc même si on a des industries qui sont par exemple dans les métaux, dans la transformation des métaux, eh bien on a des bilans carbone qui sont très bons et des acteurs qui sont amenés à prendre des parts.
C'est intéressant, ça, malgré, si j'ai bien suivi, des énergies fossiles qui ont des prix inférieurs à chez nous, il y a quand même beaucoup d'énergie propre, d'énergie verte, quoi.
Voilà, il y a beaucoup d'énergie verte. D'ailleurs, Equinor, qui est l'équivalent de Total, donc la compagnie, et d'ailleurs qui est en partie contrôlée par l'État, donc la compagnie pétrole et gaz locale, cette société-là investit plus de la moitié donc, de ses cash flows, donc de l'argent qu'elle génère, des profits qu'elle génère tous les ans, dans les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros détenteurs en Europe de parcs d'éoliennes, et en particulier l'éolienne, les conditions de vent étant très bonnes plutôt dans la mer du Nord, on a une rationalité aussi économique. C'est-à-dire que souvent, on plante des éoliennes quand on est un pétrolier pour montrer qu'on est, voilà, qu'on fait des choses positivement pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais là, on a une vraie rationalité. C'est-à-dire qu'on a des vrais actifs dans le vent qui sont portés donc par ces acteurs pétroliers qui génèrent de vrais profits, qui ont des vrais retours, qui ont une rationalité économique. Donc ça, c'est effectivement à souligner. Et alors c'est vrai, je dis vertueuse. Alors pourquoi aussi? Parce que on a cette problématique de la dette qui touche malheureusement beaucoup de pays en Europe, hein, et de plus en plus.
Et on en parle aussi aux États-Unis. Hein,
ouais, aux États-Unis avec les négociations
sur le plafond de la dette.
C'est ça, la dette américaine. Ouais. Mais en Europe, on a aussi la remontée des taux, hein, qui pèse pas mal sur beaucoup de pays et qui va continuer, hein, puisqu'on a un mécanisme où la dette il faut la renouveler, la dette de manière régulière. Donc ça arrive pas dans un coup, c'est étalé, mais on va malheureusement le sentir dans les années, de manière graduelle dans les années à venir. Bah, un pays comme la Norvège, il n'a pas de dette. Il a, encore mieux que ça, il a 1,2 trillion de dollars dans son fonds souverain. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est le plus gros fonds souverain au monde. Et comme ils sont intelligents, tout ça, c'est pas investi dans le pétrole, c'est pas investi dans le gaz, c'est pas investi dans les matières premières. C'est pas investi en Norvège. C'est investi ailleurs, bon, pour préparer le futur. Et quand on ramène ça à 5 millions de personnes, évidemment, parce que c'est un petit pays d'un point de vue du nombre d'habitants, on a quand même un niveau de richesse qui est substantiel. Le PIB par habitant, c'est deux fois celui de la France. 90 000 dollars. C'est plus que les États-Unis, qui sont à 60 000 dollars. Donc on a vraiment, ce qu'on appelle souvent en caricaturant, l'Arabie saoudite de l'Europe. Hein. Donc un État qui est vraiment, qui est sain, qui est riche, et qui peut donc stimuler des investissements dans son économie. Le taux d'impôt sur les sociétés est à 22%.
Et en plus de tout ça, donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'en plus, ils sont déjà en avance en fait, pour la suite.
Voilà.
C'est ça,
hein. Et ils auront les moyens de faire ce que l'Irlande a fait dans les années 80-90, du dumping fiscal. Le taux d'impôt qui est déjà bas, je le disais, à 22% pour les sociétés, il pourrait encore baisser. On peut imaginer un taux d'impôt à 15%.
Pour toi, il y a de la marge, quoi.
Il y a de la marge. Okay. Donc, pour attirer des investissements, et si ces investissements, ils arrivent donc en Norvège, on a effectivement la monnaie, qui aujourd'hui, pour moi, est une aberration absolue. Hein. Pourquoi, sur un pays qui est aussi fort, avec des fondamentaux comme cela, on a, et puis un prix du pétrole qui se maintient bien. Alors, c'est vrai que les prix du gaz ont plutôt baissé, mais la moitié de la production du pays, c'est quand même du pétrole. Donc, pourquoi on a une devise qui a baissé de 10% depuis le début de l'année? Ça, et puis, c'est pas comme si elle avait monté de 15% l'année dernière. Hein. Oui, l'année dernière aussi, c'était moyen, plus ou moins 2 ou 3%. Mais voilà, là, on est à moins 10. Alors, c'est vrai que l'explication peut être parce que certains fonds dits ESG ont voulu se dépondérer, parce qu'il y a trop de matières premières, peut-être. Bon, je pense que c'est aussi... Les investisseurs internationaux sont dépondérés, donc on réduit le poids dans leur portefeuille de l'Europe depuis quelques mois, en se recentrant sur les États-Unis. Hein, on l'a vu avec les multiples des États-Unis qui sont beaucoup plus élevés qu'en Europe. Et à l'intérieur de l'Europe, ceux qui sont restés ont dit « moi, je ne veux pas de la périphérie ». Donc la périphérie, c'est effectivement le sud de l'Europe, avec des pays qui ont connu des situations compliquées il y a quelques années, mais c'est aussi le nord de l'Europe. Et donc tout ça, on n'en veut pas, donc on vend. Et je pense que c'est purement donc lié à ça, et c'est une problématique de court terme qui ne reflète pas la valeur de la devise. Si on regarde en parité de pouvoir d'achat, le fameux indice Big Mac, on regarde le prix d'un Big Mac... Même le prix d'une chambre d'hôtel. C'est assez compliqué de trouver des chambres d'hôtel à Oslo à moins de 200 €, par exemple. Mais en parité de pouvoir d'achat, la couronne norvégienne est sous-évaluée par rapport à l'euro de plus de 30%. Donc même si on rattrape que la moitié, pour un investisseur,
ce sera quand même intéressant,
c'est quand même 15%. Ouais. Exactement.
Donc là, ce soir, les raisons pour lesquelles il est intéressant de se tourner vers la Norvège en bourse, en gros, le pays en très 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 bonne santé économique, pour plein de raisons. Et en plus de cette santé économique à l'instant T, il y a beaucoup d'avance. Et en plus de ça, la couronne norvégienne, qui est largement sous-évaluée par rapport à l'euro, ça nous fait quand même pas mal de raisons pour investir, toujours dans une logique de diversification, mais en tout cas, c'est intéressant d'aller en bourse sur la Norvège. Après, une fois qu'on a dit ça, sur quelle valeur, sur quel secteur il faut aller? Tu nous parlais tout à l'heure des matières premières, d'une société qui était intéressante. Rappelle le nom, tu as dit que c'était le total de la...
Voilà, Equinor.
Mais alors eux, ils sont en bourse, on peut...
Alors Equinor, tout à fait, sont en bourse. Hein. L'État contrôle 65% du capital, mais le reste est en bourse. Hein. Donc on peut effectivement investir sur cette valeur-là. Donc c'est une valeur qui est un des leaders du gaz en Europe. Donc effectivement, quand les prix du gaz étaient montés très fortement, alors eux n'avaient pas de problème d'approvisionnement puisqu'ils s'approvisionnent eux-mêmes sur leur champ
du
Nord. Hein. Mais le vendait en Europe, donc à ceux qui demandaient, notamment en Allemagne, à des prix qui étaient ceux fixés par le marché, notamment du gaz liquéfié américain qui arrivait par bateau tous les jours en Europe pour éviter qu'on soit en blackout. Donc il y a eu une période où la société a fait des profits colossaux. Hein, tous les jours, c'était énorme. Là, on a une normalisation des prix du gaz, parce qu'on est sorti de la période hivernale, qu'on avait effectivement surstocké par rapport à la réalité de l'hiver en Europe. Maintenant, il n'est pas dit que si l'hiver prochain n'est pas... imaginons qu'il soit froid ou même qu'il ait une température normalisée, hein, puisqu'on a eu plutôt un hiver chaud l'année dernière, à ce moment-là, il va falloir taper dans les stocks. Et si ça continue, il y a un moment donné où la panique un peu va se déclencher, comme l'année dernière, et on va avoir une remontée des prix du gaz. C'est vrai que ces prix du gaz qui étaient montés jusqu'à 70-80 $ par MMBTU, alors retenons 70-80 $, qui aujourd'hui sont à 7-8, il y a un potentiel de rebond là-dessus.
Ouais.
Voilà. Sachant que là, la moyenne sur 10 ans, c'est 12, entre 12 et 15.
Okay.
Donc on est même en dessous de la moyenne.
Okay. Ouais,
parce qu'on a eu ce surstockage. Les gouvernements ont tellement eu peur que les gens aient dans la rue parce qu'ils n'ont plus de gaz, ils n'ont plus de chauffage, rien. On a surstocké, alors à des coûts très très élevés, du gaz qu'on a acheté notamment aux États-Unis, qui, encore une fois. Mais on vit encore sur ces stocks importants. Voilà, si on a des problèmes de refroidissement, même en été, des centrales nucléaires parce que l'été est trop chaud, donc il faut
utiliser
plus de gaz. Voilà, eux, ils sont prêts à en bénéficier. Ils ont les volumes et donc les prix derrière.
Et donc pour jouer là-dessus, cette société, est-ce que tu peux rappeler le nom pour ceux
Equinor.
Qui... Equinor.
Voilà,
okay.
Equinor.
Donc on peut jouer, on peut rentrer sur
ça. Ça, c'est pour le gaz et effectivement le gaz pétrole, on peut jouer là-dessus. Okay. Il y a aussi pas mal en fait de sociétés parapétrolières qui sont cotées. Et alors là, comme par exemple Subsea 7, hein, qui est l'une des plus grosses, qui est un équivalent de Technip local. Okay. Alors l'avantage de cette société-là par rapport par exemple à Technip, alors Technip a fait son, sa séparation avec Technip Énergie qui est plus dans les énergies renouvelables, mais Subsea 7 a la, quasiment un tiers, voire même un peu plus de son volume d'affaires qui se fait sur les énergies renouvelables.
Alors est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que fait cette société ?
Voilà, cette société
là, peut-être rappeler ce qu'est une parapétrolière pour ceux qui ne...
Donc parapétrolière, c'est une société basiquement qui va fournir des services aux grandes sociétés pétrolières, on parlait des Total, des Royal Dutch, des Equinor, hein, dont on mentionnait, notamment quand il s'agit d'installer donc, un champ en haute mer, donc eux ils sont spécialisés hein, dans la haute mer, donc il y a tout un câblage qu'il faut faire, aller souvent chercher donc, le fond de l'océan hein, pour mettre des pipelines, hein, tout simplement pour aller chercher, pour envoyer de l'énergie, pour extraire, renvoyer le pétrole à terre, donc il y a tout voilà, un réseau qu'il faut faire. Et donc, eux, ils sont spécialisés là-dedans. C'est pour ça qu'on les appelle Subsea, donc sous la mer, Seven. Et alors, eux, la manière dont on joue aussi, ils jouent hein, très intelligemment, de mon point de vue, la transition climatique, c'est qu'ils ont des bateaux pour aller faire ces installations. Et ces bateaux-là, ben, on peut aussi les utiliser pour aller installer des éoliennes en haute mer, qu'on va évidemment essayer d'ancrer en bas d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a énormément, en fait, de similitudes entre les deux marchés. Le marché des plateformes et de l'exploitation du pétrole et du gaz offshore et l'installation des éoliennes offshore.
C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'ils peuvent à la fois jouer sur toujours ce qui se passe sur le gaz, sur le pétrole, et en même temps commencer à faire de l'éolien et s'adapter à la demande. C'est-à-dire bah, s'il faut continuer à faire un peu plus de pétrole, bah, ils pourront. Et s'il faut faire moins de pétrole et plus d'éolien, ils pourront aussi. Voilà. Donc là, tu es en train de nous dire que c'est quand même quelque chose sur l'avenir sur lequel tu es positif.
Tout à fait. Et c'est une société qui vaut 7 fois les profits. Quand on compare à Nvidia, la star du jour, qui a 60 fois, c'est sûr qu'il y a un écart. Alors, ça n'ira jamais se prêter 60 fois, évidemment. Mais voilà, ça donne un peu une idée.
Sauf si on trouve de l'IA là-dedans.
Voilà. Si un jour, ils disent qu'ils ont mis de l'IA et que ça, voilà, ça leur fait faire des économies, peut-être que ça partira plus haut. Ouais. Mais voilà, typiquement,